Il y a peut-être une phrase en particulier qui a retenu votre attention dans cet évangile. Et je pense à la suivante. Ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est un peu ironique, peut-être. Mais bien que le texte nous ait dit qu'il s'agisse des pharisiens, c'est un ajout, ce mot pharisien. En fait, on ne sait pas qui sont ceux dont parle Jean. C'est peut-être même les apôtres qui n'ont pas compris à ce moment-là. C'est peut-être aussi nous qui ne comprenons pas bien de quoi parle Jésus. Et de fait, si nous considérons ce chapitre 10e comme la suite du chapitre 9e, eh bien, franchement, on ne voit pas le rapport. Et au fond, il y a déjà là un premier message, c'est qu'on ne peut comprendre ce chapitre 10e, moins ses premiers versets en particulier, qu'à la lumière de la résurrection. Alors, ce n'est pas un scoop, hein, c'est vrai pour tout l'Évangile, mais là, franchement, on s'en rend compte. Il faut l'entendre dans la lumière de la résurrection, et donc voici comment. D'abord, nous avons donc ce discours mystérieux. Mettons-nous à la place des auditeurs. Une porte, un enclos, une escalade, un voleur, des bandits, un portier, et quoi encore? Et le texte nous dit... Jésus prit cette image. Paroimia, en grec. Ce n'est pas une image. Ce n'est pas une parabole. En latin, c'est proverbium. Ça ne ressemble pas à un proverbe, franchement. Et ce terme est propre à Jean. Il n'y a que lui qui l'emploie. Il le réemploiera au chapitre 16e. Et ce terme signifie une énigme, justement. L'étymologie de ce mot en grec, c'est oimos, c'est-à-dire le chemin, la route. Car bien sûr, on aurait pu se dire tout de suite, mais si, c'est une référence à Ézéchiel, chapitre 34e, que nous connaissons, qui est dans nos notes de Bible. Sauf qu'Ézéchiel fait allusion au fils de David, qui est mort 500 ans avant. Il y a donc un personnage à découvrir. C'est qui, celui-là? Alors évidemment, c'est Jésus. Seulement, il faut le découvrir. Qui est cet homme? Qui est ce pasteur? En préparant cette réflexion, je réentendais la phrase de Jean Vanier, qui avait prêché une retraite sacerdotale internationale à Ars en 2009, et qui, avec son accent canadien-anglais, nous avait dit « Jésus n'est pas toujours celui qu'on croit qu'il est ». Jésus n'est pas toujours celui qu'on croit qu'il est. Qui es-tu, Seigneur? Et c'est une partie du message de notre évangile de ce jour. Qui est Jésus? Et la deuxième partie, c'est peut-être justement le dévoilement du chemin dont je parlais tout à l'heure, cet oimos. Il y a un chemin. Et Pierre nous disait dans l'Épître qu'il nous faut suivre les traces de Jésus sur ce chemin en particulier. Et ce chemin vers une porte, cette porte vers un enclos où sont appelés tous ceux que le Père attire au salut. Yeshua en hébreu, ça veut dire le salut, donc il les attire à Jésus. Et c'est l'Église. Bien entendu. Vous connaissez peut-être cette phrase qui en général, met pas mal d'émotions dans les mentalités récentes, mentalités actuelles, en dehors de l'Église, point de salut. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, et peut-être parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que partout où il y a un salut, ça passe par l'Église. On ne sait pas toujours très bien comment, mais Dieu n'est pas lié au sacrement visible, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Dieu a le droit de passer par. Donc tout salut qui est annoncé passe par cet enclos, mystérieusement. Et alors, il s'agit d'apprendre à reconnaître la voix du pasteur, précisément. D'où le vocabulaire sur l'écoute, la voix, la reconnaissance. Et là, nous revenons aussitôt à l'Évangile et nous nous disons, il y a tout de même une subtilité dans cette affaire-là. Souvenez-vous, la semaine dernière, les brebis écoutent la voix du berger. Mais les témoins d'Emmaüs, ils avaient vécu avec ce berger, ils avaient été apprivoisés par ce berger. 3 ans, ils ont vécu avec lui. Il y avait donc cette intimité avec Jésus. Comment se fait-il qu'il n'ait pas reconnu sa voix ? Même Marie-Madeleine, Jésus a dû s'y reprendre 2 fois. C'est tout de même très mystérieux. Est-ce que ça met en échec ce que Jésus vient de dire ? Bien sûr que non. Ça manifeste qu'il y a la nécessité d'un apprivoisement pour reconnaître la voix du pasteur. Il faut le fréquenter et il faut qu'il fréquente ses brebis. Ça prend du temps. Au monastère, il y a quelques années, nous avions acquis des brebis. C'était très intéressant. Mais je vous garantis qu'elles n'entendaient pas la voix du pasteur. Hein. Elles faisaient ce qu'elles voulaient. Parce qu'il faut du temps. Il faut dormir auprès d'elles. Comme disait le pape François, il faut avoir l'odeur des brebis. Fréquenter et être fréquenté, c'est précisément cela, vivre avec. Sauf que nos témoins d'Emmaüs sont là pour nous dire que ça ne semble pas suffire parce qu'il faut le dévoilement d'une personne, de Jésus. Le pasteur lui-même doit se dévoiler. Le premier acte de ce dévoilement, eh bien, c'est la résurrection. Il y a une médiation nécessaire pour reconnaître le Christ, cette médiation, c'est sa résurrection. Et il y a donc la médiation de l'Église en clos, dont je parlais tout à l'heure, en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Ça ne veut pas dire que nous serons sauvés, nous les catholiques. Hein. Ça veut dire qu'on sera jugé encore plus sévèrement, ça c'est sûr. Et puis, il y a la médiation de l'Esprit, évidemment. Je ne mets pas de hiérarchie. Hein. L'Esprit qui est l'âme de l'Église. L'Esprit Saint, c'est l'âme de l'Église. Et puis, il y a encore la médiation des créatures qui aident à reconnaître la voix du pasteur. Voyez comme nous sommes une Église à l'image de notre Dieu, de relation. La voix du pasteur par les personnes qui sont chargées de nous gouverner, de nous accompagner. Quand je dis de nous gouverner, je pense plutôt au gouvernement spirituel, soit dit en passant. Mais évidemment aussi la prière qui nous aide à discerner la voix du pasteur. On rencontre ça en particulier dans la vie spirituelle quand on franchit des étapes différentes. Jusque-là, on avait l'habitude d'entendre la mélodie d'un certain oiseau. Et puis voilà qu'un matin, il n'y a plus la mélodie. Alors on se dit, j'ai dû manquer l'heure, il n'est pas venu. Sauf que le bon Dieu, il vient toujours. Et en vérité, il y a un changement de mélodie et il faut quelqu'un pour nous aider à l'entendre, à entendre cette voix qui nous attire un peu ailleurs. Et puis, il y a la création qui est un livre ouvert sur la voie de Dieu. Il y a quelques années, dans mon monastère, je me promenais et nous avons des rhododendrons au monastère. Alors, je regardais les fleurs de rhododendrons, je me suis aperçu que sur un pétale, il y avait une tache noire. Je me suis dit, tiens, lui, il n'a pas de chance, hein. Et puis j'ai regardé les autres fleurs du rhododendron et elles avaient tous une tache noire. Et j'ai regardé un autre rhododendron violet et c'était pareil. Je me suis dit, tiens, les violets, ils ont une tache noire. Puis il y avait un rouge, j'ai regardé lui aussi, puis un blanc lui aussi. Alors j'étais voir le frère pharmacien et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer cette énigme? Parce que moi, les plantes, je commence. Hein. Bon. Et il m'a dit, oui, c'est très simple. Les insectes ne voient pas les couleurs, mais ils distinguent le sombre du clair. La tache est faite pour dire à l'insecte, tu te poses là pour me butiner. Vous voyez comme la création nous parle de Dieu, de cette complémentarité, de cette manière d'être prêt pour l'autre. Tout ça nous parle de l'Église et de ses brebis dont Jésus vient de nous dire qu'il est le pasteur. Et alors, il devient de plus en plus possible de vivre en présence de Dieu, avec, en entendant sa voix, ce Dieu qui est notre paix. Nous cherchons à entendre sa voix à travers toutes ces médiations dont j'ai parlé. Vivre en présence de Dieu, c'est le premier conseil que donnait Padre Pio au père Jean de Robert, qui lui disait, mais enfin mon père, votre union à Dieu, elle est tout de même impressionnante. Il ne parlait pas des stigmates, des choses surnaturelles, ça c'est, je ne vais pas dire que c'est secondaire, mais enfin c'est second, hein. Ce qui compte c'est l'union à Dieu. Et précisément, le Padre Pio lui disait d'abord vivre en présence de Dieu, sempre, è difficile. Ma sempre, toujours, en présence de Dieu. Jacqueline, une des voyantes de l'île Bouchard, raconte sur une vidéo que vous trouverez facilement, frères et sœurs, sur l'oracle numérique, c'est-à-dire sur Internet, où elle décrit le signe de croix fait par la Vierge Marie. Ça lui a pris environ une minute et demie de faire un signe de croix. Nous qui souvent faisons plutôt des chasse-mouches, ça met en présence de Dieu. De même que de vénérer une statue, une icône, un cierge, bien sûr. La deuxième chose, c'est de faire de sa prière une conversation avec Dieu pour qu'il devienne quelqu'un de vivant. Et non pas je ne sais pas quoi, je ne sais pas où. Et puis la troisième, qui est la plus importante, peut-être, bien que les autres sont inévitables, faire une absolue confiance en Dieu et interpréter les événements comme venant de sa main, sempre, toujours. Et malgré tout ce qui nous arrive, faire confiance. C'est tout simple, finalement, l'union à Dieu. Et il finissait en disant « sempre e basta », toujours, et ça suffit. N'est-ce pas là la vie en abondance? Que désire pour ses chères brebis notre si bon pasteur, le vivant. Amen.